Louer le Seigneur. Est-ce que nous devons commencer? Oui. J'apprécie le partage d'aujourd'hui, ce matin, des frères, de l'élection d'être élu. C'est le fait que nous soyons élus, c'est, on ne peut pas l'abandonner, notre salut, on ne va pas le perdre. C'est si clair, cette parole dans Romains montre que le salut est ferme. Pas par les œuvres, mais par la foi. Personne ne peut se glorifier. Personne ne peut se glorifier. Dieu m'a choisi parce que je suis si bien. Non. Personne n'attend de dire cela. Qui parmi vous peut dire qu'il est bon, qui est juste, qui est compréhensible? Comme il a été cité, partagé. Cette élection est d'après la connaissance de Dieu. Dieu, lui seul, peut faire cette décision, prendre cette décision, pas par les œuvres, pas parce que nous l'avons mérité. D'aucune manière, nous pouvons dire que Dieu nous a choisis, nous a élus parce que nous sommes mieux que les autres. Non, dans aucun cas. Aujourd'hui, après que nous avons été choisis, notre chair est tout autant mauvaise. Pour ça qu'il dit qu'on ne doit pas marcher d'après la chair, mais d'après l'esprit. Mais d'après notre élection, beaucoup de partage ce matin, nous voyons Dieu doit beaucoup travailler en nous, mais pas seulement ainsi, mais Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Regarde, le Seigneur est mort pour tous les hommes. Mais pas tous les hommes sont sauvés. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne le veulent pas. Le Seigneur n'est pas pour seulement mort pour nous. 1 Jean 2 dit, il est l'expiation pas seulement pour nos péchés, mais pour tout le monde. Mais pourquoi seulement nous sommes sauvés? Parce que nous sommes obéissants de croire aujourd'hui que nous sommes obéissants. En fait, le mot « foi » dans l'Épître aux Hébreux, c'est la même chose que l'obéissance. Parce que nous sommes obéissants. Nous prenons la parole de Dieu. Ce qui a été annoncé, et nous avons pris, mais les autres ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas le prendre. Et ainsi nous voyons, et ça c'est le point ce soir, ce qui est très important. Il y a toujours deux côtés, la vérité. Dieu ne nous a pas créés en tant que robots, non. Il nous a créés merveilleusement, avec une volonté libre, avec un sentiment que nous devons l'aimer, mais on ne peut pas compter l'amour. Et ensuite, notre conscience, une volonté, tu dois te décider. Adam et Ève, ils ont dû se décider. Dieu leur a dit la parole. La vérité leur a été parlée. Mais Adam et Ève ont dû choisir. Tu as le choix. Oui, nous avons tous le choix. C'est important de choisir le bon choix. Chaque jour, nous devons choisir. Ça veut dire, nous les hommes, nous avons une responsabilité de notre côté. Nous voulons toujours dire, ah, Dieu va le faire pour moi. Oui et non. D'un côté, oui, mais déjà ce qu'il a dû faire, il a déjà tout fait parfaitement. Mais d'un côté, de ton côté, c'est à toi maintenant. Oui, le Seigneur va me garder, oui. Mais si tu es d'une manière pas consciente, alors il ne peut pas te garder. D'une manière pas responsable. Dieu va nous garder. Mais ça dépend si tu le veux ou pas. Paul a dit dans Éphésiens 2, pas par les œuvres. Ça, c'est seulement un côté. Jacques dit, la foi sans les œuvres, c'est la mort. Nous avons besoin aussi d'œuvres. Il y a deux côtés, deux aspects. Qui a raison? Les deux ont raison. Les deux ont raison. Nous sommes sauvés, pas par les œuvres, mais par la foi. Ça, c'est ce que Dieu a choisi, mais après la foi. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montre ma foi par mes œuvres. Abraham n'a pas seulement cru, et finalement, Dieu lui a directement pris pour le dans le Canaan, à Canaan. Non, Dieu l'a testé. Il a fait un voyage. La foi, c'est comme un voyage. Il a dû passer par des épreuves. Il a aussi fait des erreurs. Il a menti. Ne pense pas qu'il était parfait. D'Ur en Chaldée, de ce lieu-là, il n'y a aucun homme parfait qui vient de là. Il n'y a personne qui est parfait. Ils sont tous déchus. Nous n'avons pas seulement besoin de regarder un Abraham, mais de regarder à nous-mêmes. Alors ensuite, tu comprends. Il y a toujours deux côtés. Il a dit, dans Éphésiens 2, ce n'est pas par les œuvres. Ensuite, il dit dans Philippiens 2, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » De quoi? Paul, tu dis autre chose. Est-ce que Paul a raison? Ou est-ce qu'il s'est trompé? Peut-être qu'il s'est trompé dans Éphésiens. Et là, il aurait dû dire autrement et il doit se corriger. Si nous ne voyons pas ce fait, alors nous pensons souvent, alors Paul s'est trompé de ce qu'il a dit. Non. La vérité va de l'avant. Va toujours de l'avant. Aussi dans ce monde, nous voyons tout qui va de l'avant. Ça doit aller de l'avant. Ça doit faire des progrès. Aussi, notre vie humaine, elle doit grandir par beaucoup de transformations. C'est nécessaire. Mais, Philippiens 2 dit, Paul, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement, car Dieu est celui qui œuvre en vous le vouloir et le faire. Qui œuvre alors, frère, qui œuvre? Seulement Dieu, nous devons les deux ouvrir là. Nous prendre grâce sur grâce, il donne la grâce et nous devons la prendre. C'est juste. Exactement. Et Si nous n'œuvrons pas avec Dieu, alors Dieu ne peut rien faire. Nous avons cette responsabilité. Comme dans l'épître de Galates, Christ nous a appelés pour la liberté. Il nous a rendus libres. Mais n'utilise pas cette liberté pour la chair. Et si, combien souvent est-ce que nous utilisons cette liberté pour laisser notre chair? Nous ne devons pas œuvrer. Mais l'Épître aux Hébreux a dit, l'écrivain, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'il dit? Dieu va déjà le faire. Qu'est-ce qu'il dit, l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et 4? N'endurcissez pas vos cœurs. C'est un problème. Ça, c'est un problème. Ce n'est pas que nous n'avons pas entendu sa voix ou que nous n'avons pas compris, mais notre cœur est endurci. Il est désobéissant. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux 4 nous dit « Ne soyez pas désobéissants comme autrefois le peuple d'Israël dans le désert qui ne sont pas entrés. » Pas parce que Dieu ne vous voulait pas, Dieu voulait, oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entrés dans le repos, dans le bon pays? Est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu? Pas la promesse de Dieu? Oui. Mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils étaient sauvés d'Égypte. Ils ont tous été sauvés d'Égypte. Mais il y en a deux, seulement deux qui sont entrés. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, de la première génération, il y en a seulement deux qui sont entrés. Comme dans l'arche. Seulement 8 âmes ont été sauvées. Est-ce que tu penses que seulement il y avait 8 croyants au temps de Noé? Cette image, nous devons la voir clairement. C'est pour ça, cette parole aujourd'hui est très importante. Notre collaboration. Dieu ne te force pas. Dieu ne doit pas toujours te rappeler. Dieu a seulement besoin de dire à Adam et Ève, ça, tu ne dois pas manger. Ça, tu dois manger. Si tu manges à l'arbre de la connaissance, alors tu devras mourir. Mais ça, c'est l'arbre de la vie, c'est si clair. Seulement une fois, ça suffit. Dieu n'a pas dû rappeler. Est-ce que la parole de Dieu est si claire? Oui. Mais Ève était seule là. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi Ève était la seule? Elle était curieuse. Qu'est-ce que c'est cet autre arbre? Elle a pensé, pourquoi est-ce que je ne peux pas manger de cet arbre? Et ensuite, il y a le serpent qui vient. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et ensuite, Ève a été confuse. Mais est-ce que tu penses, est-ce que c'est la faute seulement du serpent? La tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas le blâmer. C'est pas l'erreur. Ah, c'est la faute de Dieu. Ses instructions n'étaient pas assez claires. Est-ce que Dieu aurait aussi dû venir apparaître? Non. Dieu a premièrement apparu à Adam et Ève quand il les a créés. Comme à Bileam, Balak. Il lui a donné de l'argent et de l'or et il l'a acheté comme ça. Il a dû prophétiser contre le peuple d'Israël. Bileam allait à Dieu, il a dit, est-ce que je dois aller? Et il a dit, Dieu a dit non. Et ensuite, il a dit à Balak non. Alors Dieu a dit non, mais Bakali, il a encore donné plus d'argent, encore plus de richesses. Ensuite, il est allé la deuxième fois à Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit la deuxième fois? Va. Est-ce que tu penses que c'était la volonté de Dieu? Non. Dieu ne voulait pas qu'il aille, mais Dieu pensait. Tu voulais aller, alors vas-y. Dieu n'a pas besoin de te dire deux fois. Une fois suffit. La deuxième fois, ça montre déjà que dans ton cœur, tu n'es pas prêt d'obéir. Combien souvent les parents doivent dire 10 fois non et l'enfant fait toujours ce qu'il veut. Mais Dieu ne veut pas te dire 10 fois non, 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 non. Ça ne sert à rien. Si notre Dieu nous dit la première fois non, alors c'est pour toujours, c'est valable. Mais si tu viens la deuxième fois et tu vas et tu demandes encore une fois, alors c'est ton problème. Et à la fin, tu vas dire, oui, Dieu a permis, a autorisé. Apprendre cela. L'obéissance. On peut prendre le résumé. Notre collaboration. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois dire? C'est mon expérience. Quand Dieu dit non, alors il peut seulement le dire une fois. Tu changes ton opinion, mais Dieu pas. Pourquoi? Parce que, comme Jacques l'a dit, nous avons deux âmes, un homme irrésolu avec deux âmes. Une fois en là, tiré par ci, par là, et ensuite tu es pleinement confus. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant. Une fois suffit, mais tu dis, mais j'aimerais cela. Alors tu dis, oui, j'aimerais. Peut-être ça va, peut-être que je dois quand même le faire. Et ensuite tu penses, mais Dieu dit ça, mais je veux ça. Alors tu as deux âmes. À la fin, tu ne sais plus ce que tu dois te décider. Et dans quel état tu es. Alors tu te décides toujours faussement. Et ensuite tu penses, j'ai de la paix. J'ai de la paix avec ça. Mais cette paix, c'est pas la paix de Dieu. Pour ça qu'il est dit, notre entendement, il doit être sain. Les sentiments. de ne pas avoir deux âmes, de saigner les reins de notre entendement, d'avoir un entendement. Quel côté est ton entendement? Nous devons être sobres. Nous devons être sobres. Le Seigneur il dit dans Luc 12, saignez votre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? De saigner les reins. Ça veut dire en tout temps être prêt. Tu n'as pas besoin d'une ceinture quand tu es en pyjama, ou bien? Est-ce que tu as une ceinture en cuir quand tu vas te coucher avec ton pyjama? Si c'est bien confortable, alors tu travailles pas. Tout qui est plus léger. Nous devons être veillants, nous devons grandir. Seigneur dit, soyez veillés, priez. L'ennemi ne dort pas, mais nous dormons, nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas en tout temps actifs dans nos pensées du côté du Seigneur. Est-ce que tu penses? Dans le combat, tu n'as pas le droit de dormir? Nous devons être sobres. De ne pas être ivre en tout temps, d'être rempli de l'esprit. De ne pas boire de vin, mais d'être pleinement d'esprit. Racheter le temps. Chaque occasion de grandir, d'être des gardes. Est-ce que nous sommes des gardes sobres? Est-ce que nous ne sommes pas sobres? C'est pour ça que nous voyons aussi du temps de Jésus dans le jardin. Le Seigneur a dit « Priez ». Ils n'ont même pas pu prier une heure sans s'endormir. Quand le Seigneur est venu, ils se sont tous endormis. Mais si nous faisons d'autres choses, nous sommes toujours réveillés. Nous sommes si réveillés, si sobres. Mais dans les choses du Seigneur, dans la vie de l'Église, nous sommes si légers. Il y a tout qui est autorisé. Ça, je peux le faire, c'est OK. C'est en ordre. Ça fait rien. Ça joue aucun rôle. Qui c'est qui dit que ça joue aucun rôle? Alors, tu utilises ta propre sagesse pour résoudre des problèmes dans l'Église. Est-ce que c'est ça le chemin du Seigneur? C'est pas étonnant qu'à la fin, c'est sans dessus dessous. Non. C'est l'Église du Seigneur. Sois sobre. Nous avons un roi. Si on fait ce que le roi dit, tu n'es pas le roi. Je ne suis pas le roi. Les anciens, ce sont seulement des serviteurs. Tu n'es pas celui qui décide, mais le Seigneur. C'est la tête sur toute chose qui a été choisie par Dieu, qui a été donnée à l'Église. Pas seulement la tête sur certaines choses, mais sur toutes choses. Dans toute chose, nous devons, particulièrement ceux qui guident l'Église, venir au Seigneur et demander comment est ton chemin. Alors ensuite, avec la parole, tu dois aussi tester si ce qui est écrit, la parole, si nous ne l'apprenons pas et nous ne croyons pas, comment est-ce que nous pouvons encore entendre sa voix si ce qui est déjà écrit, je ne veux pas prendre garde à cela. Nous disons, ah, ça fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne fait rien? Qui c'est qui a raison, la parole de Dieu ou ta décision? Ce Nous ne sommes pas sobres. C'est notre propre responsabilité. Mais à la fin, il y aura le problème. Il y a des difficultés qui viennent. Et ensuite, ta responsabilité. Qui a tort, Dieu? Nous devons donner avoir de la crainte pour notre Dieu. Nous devons lui donner la gloire, le glorifier. Dans Malachie, Dieu a dit, si je ne suis pas le Père, où est ma gloire? Où est le fait de me voir élevé? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous voulez? Ensuite, vous priez. Vous priez au Père et vous dites, notre Père, mais nous ne lui donnons pas la gloire. Qu'est-ce que nous avons comme Père? Ou quel enfant sommes-nous? Nous n'avons pas cette crainte. Nous ne sommes pas sobres. Nous ne sommes plus des enfants. J'espère que nous ne sommes pas des enfants. Parce que nous sommes des enfants, alors bien sûr, les parents doivent changer nos langes. J'ai pas compris. Ange. Je ne crois pas. Tu crois seulement? Je ne crois pas, comme si tu n'étais pas sûr. Oui, je suis sûr. Donc il a demandé si il fallait encore qu'on lui change son linge. Lui d'apporter la responsabilité, d'avoir la bonne responsabilité. Ça montre, nous les croyants, même nous dans l'Église, aujourd'hui à Sion, nous sommes si légers, nous ne sommes pas sobres. Nous ne sommes pas transformés, nous n'avons pas les sentiments de Jésus-Christ, bien que si souvent nous utilisons Philippiens 2, ces sentiments soient en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, nous plaçons nos pensées, n'est pas sur les choses d'en haut, mais sur notre propre sagesse. Notre propre sagesse, la sagesse d'en bas. Et à la fin, les démons vont utiliser notre intelligence pour leur but. Pour le but des démons. Comme Pierre. Satan a compris cela. La propre intelligence de Pierre, il l'a utilisée. Pour empêcher Christ d'aller à Jérusalem. C'est pour ça, souvent, nous sommes le problème dans l'Église. J'ai encore jamais, dans les derniers 60 ans, vu que des hommes de dehors détruisent l'Église, mais c'est toujours nous-mêmes. Nous avons détruit l'Église. Mais est-ce que Paul n'a pas dit aux anciens dans Éphésiens, à Éphèse, quand ils sont allés à Jérusalem, quand ils ont fait un arrêt chez eux, et les anciens, on les a appelés. Il leur a averti. Il les a avertis. Après, en partant, je viendrai vers vous. Il y aura des lions qui ne vont pas laisser le peuple, mais les frères et sœurs qui vont les tirer à eux-mêmes. Des lions rugissants. Est-ce que tu penses les problèmes viennent des jeunes frères et sœurs dans l'Église. De ceux qui sont appelés les qualifiés. Je suis pour l'Église, responsable pour l'Église. Où est-ce que le Seigneur est là alors? Qui est responsable pour l'Église? Qui est la tête sur toute chose? Toi? Qui c'est qui décide? Vous ne devez pas être méchant avec moi. Parce que parfois, je suis un peu... avec des émotions. Parce que j'ai 60 années d'expérience derrière moi. J'ai vu trop de choses. J'ai pas de confiance en moi-même, sur ma chair. J'ai pas de confiance sur ma propre sagesse de discerner. J'ai pas confiance. Est-ce que nous n'avons pas fait tous assez d'erreurs? Et vous pensez, vous êtes si capable d'amener l'Église de l'avant, regarde mon état. Est-ce que vous êtes satisfait? C'est pour ça. Je ne veux pas seulement enseigner, de donner des enseignements. Ça ne sert à rien. Peut-être qu'on connaît encore mieux, que quelqu'un connaît encore mieux la Bible que moi. C'est bien, bien possible. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? De donner un bon partage. Peut-être un petit peu ça peut aider. Mais ça ne transforme pas les hommes. Ça rend personne vivante. Ça rend personne une pierre vivante, non? Tu comprends tout, tu veux seulement comprendre, mais tu ne veux pas obéir. Tu veux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu ne veux pas obéir. C'est ce qui est écrit pour l'obéissance. Nous avons entendu dans le partage ce matin, c'est pour l'obéissance. Nous voulons entendre, mais pas obéir. D'entendre, c'est facile. De comprendre, c'est aussi pas difficile. Mais d'obéir, de faire ce que nous entendons, comme Jacques a dit, de pas seulement ceux qui entendent la parole, de comprendre. À quoi ça sert si j'entends seulement et je comprends, mais et je ne mets pas la parole en pratique, je ne l'obéis, j'obéis pas à la parole. À la fin, je suis un menteur pour moi-même, premièrement. Alors ensuite, je pense, je sais déjà. Tu as menti à ton moi. C'est un mensonge. Alors, j'aimerais apprendre aux autres de faire cela comme un pharisien. D'être sobre, de prendre garde en tout temps, de rester au Seigneur. Veillez et priez, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et Pierre dit aussi, veillez, soyez sobre, parce que l'ennemi marche comme un lion rugissant et veut te dévorer. Tu penses, tu es plus sage que le lion que le lion rugissant, que le serpent. Non, nous ne sommes pas plus sages. Ne pense pas que tu es si sage, non. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut, c'est ce que Jacques nous a dit. C'est pour ça que tu peux prier et prier, mais si tu as deux âmes, tu es boitant une fois comme ça, une fois ainsi. Tu crois aujourd'hui, demain, tu as des doutes, hein, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, pas sûr, demain, je suis sûr, et à la fin, tu es pleinement pas sûr. Alors tu es tiré par-ci et par-là, par des vagues, même de tes propres pensées. Notre pensée est importante pour travailler avec le Seigneur, pour collaborer avec lui. Je prie chaque jour, Seigneur, renouvelle mes pensées. Comment est-ce que je peux saisir la parole de l'Esprit pour que je puisse connaître la volonté du Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur, la connaître afin que je le fasse. Pour que je le reconnaisse et que j'en explique pourquoi est-ce que je dois l'expliquer, le raconter. Parce que si je le fais même pour moi-même, est-ce que l'Épître aux Romains n'a pas dit « Nous devons ne pas être rendus semblables à ce monde, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de notre conscience pour avoir la volonté parfaite du Père, de pouvoir la reconnaître. Pourquoi nous devons reconnaître la volonté du Père pour que nous puissions la faire, de pouvoir obéir, afin que nous faisions ainsi. J'ai souvent dit au Père, comment est-ce que je peux faire ta volonté si je ne la connais pas? Et comment est-ce que je dois savoir si tu ne me la montres pas? Si le Père va me dire, si je te le montre, est-ce que tu vas aussi le faire? Ou est-ce que tu es seulement curieux? Et à la fin, tu sais tout et tu es si fier et tu penses, ah, maintenant tu es qualifié d'être un enseignant pour les autres. Tu peux résoudre tous les problèmes dans l'Église. Non, ça sert pour la transformation, pour le salut de l'âme. Ce que les frères ont dit ce matin, c'est juste. Le salut de l'âme est un travail si difficile. Oui, c'est vraiment le cas. La naissance demande aux femmes 9 mois pour porter une naissance difficile. Le début, c'est seulement 9 mois. Mais les difficultés et les choses les plus difficiles, et ça se passe après que l'enfant est né. Est-ce que le frère est là? On peut demander au frère. Il a un enfant. Il a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Tu ne peux plus dormir. Tu dois tant te préparer. Tant de soucis, te nourrir, etc. Beaucoup de travail. Est-ce que tu penses que le Seigneur n'a pas beaucoup de travail pour toi? Et plus l'enfant grandit, alors tu as des plus grands problèmes parce que ton enfant a sa propre opinion. C'est encore bien quand ils sont bébés. Mais quand ils ont 2 ans, alors ils marchent partout où tu ne veux pas qu'ils aillent. Alors, ils ouvrent chaque tiroir. Et ensuite, quand ils ont 5 ans, alors il y a encore plus de problèmes. Quand ils ont 12 ans, alors le problème est encore plus grand. Et ensuite, en tant que parent, tu as des maux de tête. Et ensuite, ils pensent. Tu ne penses pas quand ils vont à l'université. Non, maintenant, tu es libre. Non. C'est vraiment beaucoup de choses difficiles qui rentrent, qui viennent. Pour ça, que j'aimerais dire tout haut, dire aux parents, ne habituez pas mal vos enfants aussi. S'ils ne sont pas entraînés en étant jeunes, quand ils sont plus grands, vous aurez des grands problèmes. Est-ce que tu penses, est-ce que ce n'est pas ainsi pour les enfants spirituels? Pas les jeunes frères et sœurs qui sont venus dans l'église et ils ont des grands problèmes, ou ils amènent les grands problèmes. En 2010, j'ai donné une conférence à Bangkok. Et le thème, c'était le mystère des 7 étoiles dans le livre d'Apocalypse. Qui sont les étoiles? Ah, c'est des anges, anges des cieux? Non, les anciens. Les frères qui dirigent. Vraiment? Oui, vraiment. C'est souvent un mystère. C'est un mystère ouvert. Tous les grands problèmes viennent des frères qui dirigent. Est-ce que tu veux être un frère qui dirige? Meilleur temps d'être un serviteur, un esclave. Même la parole d'être quelqu'un qui dirige, ça te donne déjà cette position à la fin. Ton nez est si haut que tu ne peux même pas sentir, il est tellement haut. Tu veux avoir de l'autorité. Tu veux tout décider. Les saints doivent tous venir à toi pour te demander. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'avoir de la communion les uns avec les autres, non. Nous avons besoin de communion. Même, en fait, ces frères qui servent, ils sont importants. Mais, s'ils sont devenus tordus, alors, ça mène à un grand problème. C'est plus après des anciens, mais c'est des lions rugissants. Je dis aux frères d'être des anciens, ce n'est pas une position. Est-ce que tu ne l'as pas souvent entendu ça, frère? Oui, très souvent. Mais apparemment, c'est pas rentré partout. Parce que nous avons une maladie. Nous sommes un danger. Nous avons tous une maladie. Paul est aussi ainsi, autrefois. Nous ne devons pas être ainsi. C'est pour ça que notre collaboration est très, très importante. Très, très importante. Les sentiments de Jésus. Ne pas devenir fier. Le Seigneur s'est humilié, s'est abaissé. s'est rendu un esclave, bien qu'il était Dieu et qu'il est. Est-ce que tu ne peux pas te le représenter, cela? Et nous, qui sommes rien, nous voulons être des personnes qui guident, qui dirigent. Nous sommes tournés. Nos sentiments sont tournés. C'est pour ça que Pierre dit aussi, humiliez-vous sous le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Celui qui ne se s'humilie pas devant le Seigneur ne peut pas recevoir quelque chose du Seigneur. Seul quelqu'un qui a deux âmes, il fait une fois ainsi, une fois comme ça, Jacques dit, ne pense pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu n'aimerait pas tout nous donner, ce dont nous avons besoin? Oui, mais si tu as deux âmes, alors pas. D'obéir, c'est un exercice. En tant qu'enfant obéissant, des enfants d'obéissance, au verset 10, en tant qu'enfant d'obéissance, si Dieu est notre Père, alors nous, en tant qu'enfants, nous devons devenir des enfants obéissants. Mais j'aimerais dire aux enfants tous les fils et les filles dans la famille, si vous n'avez pas appris d'obéir à vos parents, je ne crois pas que nous pouvons obéir à Dieu. Comme Jean a dit, si tu le frère que tu vois, si tu ne l'aimes pas, comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors si tu n'obéis pas à tes parents et quelqu'un t'a une dispute, non, je peux décider moi-même. Je sais ce que je fais. Vous n'avez pas besoin de me dire ce que je dois faire. Si vous avez une telle attitude, je suis sûr. Votre attitude avec votre Père Céleste, ça sera exactement la même. Notre Père dans les cieux. Si c'est le Père qui vous a appelé, est saint. Nous devons aussi être saints dans toute notre conduite comme le Père. Oui. En tant qu'enfant obéissant. Mais personne ne peut forcer. Particulièrement si les enfants sont devenus si grands. Frère, est-ce que tu peux encore forcer des enfants? Non, plus. Vraiment? Oui, vraiment. c'est passé. Je suis déjà grand-parent. Je ne peux même pas forcer mes petits-enfants. Est-ce que tu penses que l'arrière-grand-père peut faire cela? Est-ce que tu penses que le Père Céleste peut nous forcer? Pour cela que nous avons besoin, quand le Seigneur nous, le Père nous aime et nous sommes des enfants obéissants, alors louer le Seigneur pour les châtiments du Père. J'ai besoin encore de châtiments aujourd'hui. Ou est-ce que tu n'en as pas besoin? Oui. De mon Père céleste. cette collaboration avec Dieu, Dieu aimerait, mais particulièrement de notre âge, frère, qu'est-ce que Dieu doit encore faire? Forcer? Si tu ne veux pas, ok, alors le Père va dire, tu as la liberté, fais ce que tu veux. Ou dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu n'a pas dit, ok, Ève, stop, stop. Ça, Dieu ne le fait pas. Et aujourd'hui, ta vie non plus ne fait pas ça. Et tu dis, ma chair aimerait bien le, aimerait faire cela. Non. Dieu n'est pas un tel père. Tu ne peux pas faire quelque chose, mais est-ce que tu sais? Le Seigneur reviendra, il y aura un jugement. Le châtiment aujourd'hui, c'est pour la vie. Mais le châtiment du jugement plus tard, c'est plus difficile, c'est sans grâce, sans miséricorde. C'est comme par le feu. Dieu va parvenir avec nous tous, sûrement. Il ne va pas dire, « Ah, frère, tu es pas obéissant, tu perds ton salut. Je te jette, tu n'es plus sauvé, tu n'es plus mon fils. » Si le fils est bon ou pas bon, tu sais toujours le fils. Pour ça qu'il y a une récompense pour ceux qui sont obéissants aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre chemin. Afin que ceux qui sont désobéissants plus tard, qui doivent passer par le feu, ils doivent passer par une sorte de jugement. Tribulation difficile, sans miséricorde, mais par la justice, afin que nous parvenions tous au but. Mais ce but, où tu vas, alors, ce sera seulement après le royaume des 1000 ans que tu parviens au but. Pour ça que le deuxième point, c'est notre espérance qui est pleinement sur la grâce. La mettre sur la grâce aujourd'hui. Quelle est ton espérance dans ta vie journalière? Ton bon travail, de bien gagner de l'argent, de bien vivre, de tout avoir, sans problème, sans difficulté, sans souffrance, ça serait bien, n'est-ce pas? Sans pandémie, sans rien. Il y a tout qui est plat et merveilleux. Et tu peux surfer dans le royaume des cieux. Je me souhaiterais que ça soit si facile, mais non. Le seul chemin, comme il a déjà été partagé, c'est par beaucoup d'épreuves. Par beaucoup d'épreuves. Oui. Mais tu dois toujours, si tu es sobre, ton espérance, ça signifie ton but. Aujourd'hui déjà, la mettre sur la grâce. La grâce, elle est donnée pour toi aujourd'hui, pas pour que tu aies une bonne vie, mais pour t'exercer. Comme Tite chapitre 2 dit, pas d'aimer ce monde, de ne pas suivre ta chair. Nous devons voir, nous devons être centrés, avoir ce focus sur le but. mettre notre focus sur cela. Nous devons toujours avoir ça devant les yeux parce que sinon tu es distrait. Et si tu n'as plus le centre devant les yeux, le focus devant les yeux, alors tu arriveras quelque part. Tu es pleinement distrait par les désirs de la chair, les désirs des yeux. Tu aimerais avoir quelque chose, avoir quelque chose d'autre. Tu aimerais encore acheter. Tu veux satisfaire tes désirs. Tu n'es pas prêt de laisser ton moi. Il y a tant de distractions. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons mettre notre espérance pleinement. Celui qui n'est pas pleinement centré, comme si tu roules une voiture, particulièrement le soir, tu dois avoir 7 yeux. Il y a tes 2 yeux avec tes 2 phares et ensuite il y a 2 autres phares et les phares plus petits encore derrière en plus. Si tu conduis la voiture le soir, parce que sinon il y a quelque chose qui va se passer. Aujourd'hui, nous vivons minuit, peu de temps avant minuit. C'est les ténèbres dans ce monde. Quel est ton focus, ton centre? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quelle est cette gloire? D'être comme le Père est, c'est juste. Est-ce que tu ne veux pas être un prémisse? Oui. Est-ce que tu ne veux pas spirituellement parvenir à maturité? Mais alors tu dois être prêt que le Père et que le Seigneur écrit son nouveau nom. Il a toujours des nouveaux noms. Combien est-ce que le Seigneur a de noms? Le Seigneur dit, il va écrire son nouveau nom sur nos fronts, Seigneur. Un nouveau nom, je pensais que tu t'appelles Jésus, je te connais en tant que le Messie, Jésus-Christ. Ça, c'est ton nom. Est-ce que tu ne connais pas le nom de Jésus, frère? Comment est-ce que le Seigneur s'appelle? Seigneur sauve. Je suis celui qui sauve. Alors, tu le connais? Tu le connaissais si bien en tant que le sauveur et encore le jugement. Le roi, celui qui dirige, quoi encore? Je te dis, toute l'écriture, il y a son nom. Il s'appelle la voix de Dieu. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Alors tu ne connais pas son nom. Beaucoup de personnes disent, oui, je connais le Seigneur. Le Seigneur ne peut rien me dire de nouveau. De quoi? Oui. Combien de présomptions? Tu connais le Seigneur, il n'a rien. La prétention, il a. Tu connais le Seigneur, il n'a rien à te dire. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un m'a dit, il a entendu un message où les personnes disent, ils annoncent, oui, si tu entends quelque chose de nouveau de la parole, alors tu dois partir. Et ils utilisent l'épître de Timothée. Tu dois fuir, fuis. Paul dit, fuis toutes les mauvaises choses, pas la parole de Dieu. Est-ce que tu penses que le Seigneur n'a rien à te dire de nouveau? Même dans le monde, ils font des formations continues. Ça veut dire, particulièrement les Allemands, ils n'ont jamais fini d'apprendre. C'est un quelque chose qu'ils disent en allemand. Mais spirituellement, tu as déjà tout appris. Tu sais déjà tout. C'est pour ça que nous devons centrer sur Christ. Ses richesses sont insondables. Jérémie a dit, appelle-moi. Seigneur a dit à Jérémie, et je te montrerai des choses grandes. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. De quoi? Est-ce que tu penses que nous, avec notre compréhension limitée, nous avons déjà tout connu de Dieu, ce qui est caché en lui? Non, chers frères. Puissions tous nous humilier devant le Seigneur. J'aimerais encore plus. Est-ce que Paul ne nous a pas montré un exemple dans l'épître aux Philippiens, pas que je l'ai déjà saisi. Cette parole seulement doit nous montrer que nous ne savons pas tout. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai lu la Bible, j'ai dit, Paul, de quoi? Tu ne connais pas tout? Alors, j'ai entendu d'un frère plus âgé, entendu, qui avait 40 ans. J'ai déjà tout su, ce qui est dans la Bible, j'ai déjà tout vu. Il n'y a rien que je n'ai pas encore vu. J'ai pensé, c'est terrible. Ce n'est pas étonnant qu'il devenir Dieu alors. Il a enseigné ensuite qu'il est devenu Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'éternité. Pour reconnaître ce merveilleux Dieu, nous ne savons même pas une fois tout ce qu'il a créé. Et est-ce que tu connais l'univers? Est-ce que tu connais tout ce qui est dans la Suisse, frère? Non. Cette petite Suisse, est-ce que tu ne connais pas tout? Comment est-ce que tu peux connaître ce grand Dieu? Combien grand est ton Dieu? Pour ça que les Allemands disent... J'ai pas compris le mot. Ah, c'est la. Quand ils disent la petite tête. Combien grand est ta petite tête? C'est une nano ta tête. Dis une blague, si j'entends quelque chose, ainsi. Alors, bon, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal. Frères et sœurs que je connais. Louez le Seigneur. Nous devons voir l'espérance de la gloire. J'aimerais pas manquer. Si nous manquons ce but, alors il y aura des ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs. Alors tu dois passer par le feu. Et encore bien plus. Être coupé en pièces, c'est ce que le Seigneur dit. Un serviteur qui sait et qui ne fait pas ce que le Père veut, ce que le Seigneur veut, alors il va être encore être plus... Plus, il va recevoir plus de coups de quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il ne le savait pas. Soyez sobre. Soyez sage aujourd'hui. Collaborez avec le Seigneur. Ne pensez pas, alors le Seigneur va déjà tout faire pour moi. Non. Non. Si c'était si facile... Pense aux 10 vierges. Est-ce qu'ils ont tous réussi à, elles ont tous réussi à entrer? Seulement les sages sont entrés. Quels sont les sages, les sobres dans leurs pensées? Quels sont, qui sont les folles, qui ne sont pas sages? Ils pensent seulement, ah, le Seigneur va déjà y parvenir, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de faire quelque chose, ça c'est vraiment, c'est fou. C'est de la folie. Et nous devons mettre notre espérance pleinement. Et là, ce mot pleinement, c'est pleinement, sans être irrésolu. Et là, nous devons déjà exercer maintenant. Et là, la grâce, si tu n'utilises pas la grâce pour venir à ce but, et la grâce va nous exercer, pas simplement facile d'être libre de tout, nous n'avons rien payé. C'est bon, c'est bien. Quelqu'un aimerait bien, tout le monde aimerait bien avoir un don libre si tu... C'est pas si libre, maintenant tu dois gagner de l'argent. En tant qu'enfant, tu reçois tout librement, tout est donné. Mais maintenant, n'est-ce pas, frère, est-ce que tu reçois tout librement? Tu dois gagner de l'argent. Nous devons bien plus travailler pour recevoir. Je suis très reconnaissant que le Seigneur aujourd'hui est si sobre de parler une parole importante. Je sais seulement, frère, que je ne sais rien en comparaison avec tout que ce que j'ignore encore. Je ne sais rien. Et je remercie le Seigneur qui nous montre que chaque jour, nous pouvons le gagner. C'est vraiment merveilleux. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour une telle parole. Merci Seigneur. Nous avons tous besoin. La récompense, ne pense pas que cette récompense est si petite. Cet héritage, ou ce que Pierre a dit, ou ce que Marc a aussi mentionné, cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, il est si grand, tu ne peux même pas aujourd'hui te le représenter. Qu'est-ce que, comme héritage, est-ce que nous avons reçu? Il est si grand, cet héritage. Et nous, si nous le manquons, oh Seigneur, alors, nous y aura des pleurs, pas seulement un jour, mais tout le temps. Tu vas pleurer chaque jour. Seigneur, ouvre nos yeux. Cette merveilleuse récompense est notre héritage. Nous le recevons au retour du Seigneur qui est gardé. Et rappelez-vous ce que Paul a dit, l'Épître aux Galates, que son héritage, qu'il est encore un enfant, qu'il n'est pas digne, ce n'est pas autre chose que cet esclave, il ne peut pas hériter. Tu ne peux pas l'apprécier. Si je suis un enfant, si je donne des choses si chères aux enfants, alors il va le détruire avec sa bouche, et encore, il va encore le détruire. Après, l'enfant deviendra malade. Imagine-toi, tu donnes un diamant qui coûte 20 000 euros à un enfant et le bébé le mange. Alors, tu as un problème. cet héritage. Ce merveilleux héritage, il est gardé. Parce que sinon, s'il n'est pas gardé là et je ne te le donne pas, je te dis, tu ne vas pas l'apprécier. Tu ne vas pas l'utiliser, en avoir besoin. Déjà, la doctrine que le Seigneur nous a donnée, tu l'as déjà mal utilisée. Même la vérité que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, nous l'avons déjà mal utilisée. Et notre propre but, l'utiliser pour notre propre but, c'est devenu mes œuvres. Et son église est devenue mon église. Je suis maintenant à la tête de l'église. Et à la fin, tu es un cardinal, un pasteur. Et à la fin, il y a tout qui t'appartient. Et tout le monde doit t'entendre, et pas Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas déjà ce que le Seigneur nous a donné, nous l'avons mal utilisé? Est-ce que la parole est trop difficile? Ce que je dis aujourd'hui, ou est-ce que c'est notre histoire de ce que nous avons vécu nous-mêmes? Ou est-ce que vous voulez seulement entendre des bonnes doctrines? À quoi ça nous sert, à vous sert d'avoir seulement une bonne doctrine? Est-ce que tu n'as pas de crainte de la parole de Dieu? Une sainte crainte, ce n'est pas des paroles des hommes, mais la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas la tourner. D'après notre propre bonne pensée de ce qui me convient. Alors je dois la mettre, l'ajuster avec lui. Mais nous sommes si déchus, malheureusement. Des enfants d'obéissance au point D. Notre tante pèlerin, j'apprécie ce mot et j'apprécie la parole et j'expérimente la parole de notre pèlerinage. Ou est-ce que tu as déjà une cité dans cette terre comme Lot, la femme de Lot et Lot? Abraham, quand il est allé à Canaan, il est dans des têtes, tentes, parce qu'il a reconnu que ce n'est pas la réalité du bon pays. Mais Abraham, le père de la foi, il regarde sur la ville de Dieu, sur une ville céleste. Et l'écrivain d'Hébreu a clairement dit, nous n'avons pas de cité qui reste sur cette terre. Alors, où est-ce que tu habites? Comment est-ce que nous devons utiliser notre temps de pèlerinage dans la crainte de Dieu? Pas seulement la crainte. La crainte que nous avons entendue, ça ne suffit pas. Les hommes n'ont pas de crainte. Ils ne croient même pas qu'il y a un étang de feu. Mais Dieu, de craindre Dieu, c'est pas que nous avons une telle crainte d'avoir des coups ou d'avoir cette crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu en ce que tu lui donnes la gloire. Tu le respectes. Il est Dieu. Qu'est-ce que ça signifie Dieu? Si tu te tiens devant le président, comment est-ce que tu vas apparaître avec ton pyjama? Comment est-ce que c'est? Tu vas t'acheter un nouvel ensemble, un nouveau costard, comme pour le mariage. Mais si tu apparais devant le Seigneur à Sion, comment est-ce que tu apparais là? Comment est-ce que nous apparaissons avec crainte? Nous faisons des blagues. Nous apparaissons devant le roi. Dans Apocalypse 4, les anges, là, regarde, lis Apocalypse. Ils sont tous avec des habits blancs, revêtus d'habits blancs. La justice, avec respect. Respect devant ce Dieu merveilleux. Ils ont tous mis leur couronne de côté. Et nous, nous nous comportons comme si le Seigneur n'était pas là, parce que nous ne le voyons pas. Mais nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques. Nous le voyons avec les yeux de notre cœur. Si tes yeux ne sont pas ouverts et tu ne le vois pas, alors, dans la réunion, avant et après, tu te comportes différemment. Et ensuite, dans ta vie personnelle, tu te comportes différemment parce que tu ne vis pas devant sa présence. Paul a dit, il a toujours le Seigneur devant les yeux. Il fait tout devant la présence du Seigneur. Mais si tu vois le Seigneur, oui, là, il est à côté et tu te comportes comme un ange saint. C'est ainsi. Nous avons besoin de ce respect. Cette parole me plaît parce que la crainte de Dieu comporte notre gloire pour lui. Nous le glorifions. Nous le donnons la gloire parce qu'il est Dieu. Je ne peux pas décrire qu'est-ce que ça signifie. Il est un Dieu glorieux, il est tout puissant. Tout lui appartient. Il nous a sauvés. Il a même payé un prix très élevé. Est-ce que tu apprécies le salut? Ou tu dis, Alléluia, je suis sauvé. Comme si c'était une chose si bon marché. Si la chose est pour toi si bon marché, alors tu ne peux pas apprécier. Est-ce que tu sais combien le salut est précieux? Le prix que Dieu a payé pour ça qu'il est dit en tout temps d'avoir cette appréciation pour notre salut, pour notre rédemption. Cette appréciation. Nous ne appartenons pas à nous-mêmes. Mais ce sentiment, nous ne l'avons pas. Tu penses que tu es déjà ton propre moi. Tu t'appartiens à toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, nous disons. Peut-être dans ta maison, alors tu n'as rien à dire. Mais dans l'église, dans la maison de Dieu. Désolé, ce n'est pas ta maison. C'est la maison du Dieu vivant. C'est pour ça que Timothée dit qu'on doit savoir comment est-ce que nous devons nous comporter dans la maison du Dieu vivant. Ça, c'est le mystère de la piété. Dieu révélé dans la chair. Mais nous nous comportons comme si c'était ma propre maison. Et nous disons, nous connaissons Dieu. Nous avons du respect devant Dieu. Où est le respect? Si tu pêches, ah oui, je prends le sang, j'oublie. Tu n'as pas de repentance, tu n'as pas de sentiment que c'est quelque chose de méchant. Ah, j'ai le sang, louez le Seigneur. Sang précieux, combien est-ce qu'il est précieux? Vous pouvez le chanter, le sang précieux, le sang précieux. Mais dans ton expérience, combien est-ce que c'est précieux? J'aimerais vous dire, comme Paul a dit, la récompense du péché, c'est la mort. Si tu pèches, tu dois mourir. Le salaire du péché. Et si tu ne fais pas la loi, si tu ne respectes pas la loi, alors tu dois être emprisonné. C'est une punition. Mais le Seigneur pardonne. Parce qu'il a versé son sang précieux, il a payé. Il a payé un grand prix. Personne ne peut payer le prix pour toi. Et nous le prenons à... C'est normal, ça va de soi. Ça va de soi. Sans avoir cet sentiment intérieur de regretter, de reconnaître. Et nous disons, nous apprécions cela. Paul a dit aux Corinthiens, j'ai mis le Seigneur devant vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a ensorcelé? Vous êtes parti. Vous avez été distrait. Il y a tant d'autres choses. S'il n'y a pas de repentance, quand a été la dernière fois que tu t'es repenti devant le Seigneur? Quand était la dernière fois que tu t'es vraiment repenti devant le Seigneur pour tes péchés? Et ensuite tu dis, ah, je ne suis pas clair, ah, Seigneur, je ne savais pas. Comment est-ce que tu ne peux pas savoir? Tu ne veux pas savoir, tu veux. Tu n'es pas sobre, pour ça que tu ne le savais pas. Quand a été la dernière fois que tu t'es repenti devant le Seigneur? Si tu ne te repens pas, alors il ne recevra pas de pardon. C'est ce que nous dit Jean. Je n'ai pas fait d'erreur. Ah non, ce n'est pas mon erreur. Ok, alors tu mens. La vérité n'est pas en toi. Nous essayons toujours de cacher notre conscience avec beaucoup de raisons et de se justifier soi-même. Mais si nous connaissons, reconnaissons nos péchés, nous nous repentons, alors Dieu est prêt de nous laver de tous nos péchés, de nous purifier et de nous guérir même. Mais si nous n'avons pas cette repentance de revenir, la repentance c'est de revenir, ça veut dire « Ah, je suis désolé ». Non. La repentance, ça signifie de se retourner. Retourne-toi de ta mauvaise voie. Ça, nous devons le faire. Parce que sinon, ce n'est pas une repentance. C'est pour ça que le sang précieux, c'est le salut du Seigneur que le Seigneur a donné à la croix. Parfois, nous devons vraiment voir si clairement comment le Seigneur a souffert à la croix pour pouvoir suivre son exemple, ses souffrances. Et nous, nous ne sommes pas prêts à souffrir. Oui, Seigneur. C'est pour ça que ces quelques points, je les ai écrits. Dieu a déjà su qu'Adam et Ève seraient amenés à leur chute, seraient tentés par Satan et le péché allait entrer et que la chute ceci terrible. Terrible. Tout le monde, toute cette chute, le monde est déchu. Si nous, aujourd'hui, nous regardons ce monde et nous n'avons pas cette souffrance comme Lot, qui n'a pas pu tenir aussi avec Noé, autant de Noé aujourd'hui dans notre temps. Quand tu vois cela, et tu peux encore bien dormir, alors je pense, tu n'as pas de sentiment dans ton cœur. Mais Dieu a déjà, avant la fondation du monde, il a déjà calculé avec sa connaissance. Il a déjà préparé l'agneau. L'agneau qui était préparé, c'était pas une solution d'urgence. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une solution d'urgence? Une solution d'urgence, c'est je ne sais pas ce qui se passe. Ah, alors c'est passé. Ah, alors je dois trouver une solution d'urgence. Non, l'agneau n'était pas une solution d'urgence. C'était déjà calculé, préparé. Même avant la fondation du monde, quel merveilleux Dieu nous avons. Il a déjà tout préparé. Et ensuite, par la création du monde, Dieu l'a déjà. Le Seigneur a seulement été crucifié à 2000 ans, non. Avec Dieu, il y a déjà tout qui a été fait, seulement a été révélé dans le temps. Comment est-ce que tu apprécies cela? Est-ce que tu penses ça, c'est si simple, et tu le prends simplement louer le Seigneur pour le sang? Ça va de soi. Si tu ne le sais pas, comment est-ce que tu apprécies cet agneau qu'il a accompli à la croix, et il est assis aujourd'hui sur le trône pour ta volonté? Si tu ne l'apprécies pas, alors je ne pense pas que tu apprécies l'espérance de la gloire qui va venir. Le temps est passé. Est-ce que vous êtes prêts de vous donner votre collaboration au Seigneur? Amen. J'espère que ce n'est pas seulement un message. Ça ne doit pas être un message, mais ça doit nous. Après ce message, on doit avoir cette conquête. Merci pour votre patience. Nous nous voyons demain. Louez le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous l'avons, nous voulons apprendre une telle obéissance. Tout ce que tu nous dis de pouvoir le faire, d'être des enfants d'obéissance. Si tu parles une fois, que nous puissions déjà te suivre. Merci Seigneur, nous te donnons notre collaboration nouvellement ce soir. Nous voulons, dans notre pensée, ne pas être irrésolus, mais tenir ferme dans cette espérance. pouvoir avoir cette espérance clairement devant les cieux. Nous mettons nouvellement notre espérance. Tu reviens bientôt et nous voulons être présents, être là avec toi. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Seigneur, nous voulons pas manquer le but. Tu nous as montré combien c'est précieux. Combien ton sang est précieux. Ton œuvre de salut. Tout ce que tu veux nous sauver. Nous voulons te remercier ce soir. Merci que tu nous as donné tant de lumière ce soir. Seigneur, nous te donnons notre collaboration. Merci Seigneur, tu vas donner une telle appréciation pour le salut que tu as accompli. Nous ne voulons pas prendre ton sang à la légère, mais nous voulons repentir, revenir, prendre ton chemin au sérieux. Nous prions pour la crainte, pour ce respect que nous ayons, crainte de Dieu. Te donner ce respect, que tu puisses nous apprendre cela dans les derniers temps. Cette semaine, j'ai plus apprécié le sang précieux du Seigneur et ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est aussi sain de penser par la journée de travail et d'expliquer au Seigneur là. J'ai fait ça faux. Ou ça, j'ai pas fait d'un bon cœur. Et le Seigneur a vraiment cette pensée, il a vraiment entendu et donné la paix. C'était une fête de réconciliation précieuse. Seigneur, sauve-nous de toute maladie. Nous voulons être comme toi, apprendre l'obéissance. Nous te demandons d'avoir un nouveau cœur qui aime obéir, qui ne vit pas dans sa propre volonté. Seigneur Jésus, nous prions pour la famille de notre frère. Ce serait bien s'ils pouvaient tous venir ensemble. Seigneur, tu as prié que le Père va nous garder des choses mauvaises. Nous te demandons que nos désirs charnels, tu les transformes pour que nous ayons notre désir en toi, afin que nous ne soyons pas par notre désir charnel, ne sois pas éloigné de toi. Pas être loué par l'argent comme Biléam. Nous voulons être prêts de crucifier notre âme au bon moment par ton esprit. Tu es la vérité. Tu es la parole, c'est aussi la vérité. Alors tu t'appelles aussi la parole. Merci que tu nous sanctifies par ta parole. Si nous croyons, si nous le faisons, donne-nous cette grâce. Que nous grandissions dans la crainte de Dieu, que nous puissions entrer dans la compréhension de pouvoir venir devant toi et devant ton Père, notre Père. Tu es aussi le Dieu de la miséricorde. Ton Fils, tu l'as envoyé dans le monde afin que ta lumière loue le Seigneur. Nous devons l'espérance de la gloire. J'aimerais pas manquer si nous nous manquons ce but, alors il y aura des ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs. Alors tu dois passer par le feu. Et encore bien plus. Être coupé en pièces, c'est ce que le Seigneur dit. Un serviteur qui sait et qui ne fait pas ce que le Père veut, ce que le Seigneur veut, alors il va être encore plus, il va recevoir plus de coups de quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il ne le savait pas. Soyez sobre. Soyez sage aujourd'hui. Collaborez avec le Seigneur. Ne pensez pas, alors le Seigneur va déjà tout faire pour moi. Non. Non. Si c'était si facile, pense aux 10 vierges. Est-ce qu'ils ont tous réussi à entrer? Seulement les sages sont entrés.